Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Il y a presque 35 ans, la Nouvelle-Calédonie était le théâtre d'une flambée de violence entre partisans et opposants de l'indépendance, une véritable guerre civile que l'on appelle aujourd'hui pudiquement les événements. Après plusieurs mois de confrontation, la situation s'était finalement apaisée grâce aux accords dits de Matignon de 1988, trouvés sous l'égide du premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Écoutez la réaction du leader nationaliste kanak, Jean-Marie Tjibaou, à l'époque lorsqu'on vient de signer le texte.
Jean-Marie Tjibaou, bonjour.
Bonjour.
Alors, sur place, chez vous, qu'est-ce que l'on dit de cet accord passé à Matignon?
Et, par exemple, le Front uni de libération kanak estime que vous n'aviez pas à négocier avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous allez essayer de lui dire pour le convaincre?
Il y a dans chaque parti politique, comme dans chaque syndicat, des objectifs pour essayer d'obtenir les avantages que l'on veut obtenir. Et il y a eu les morts, il y a les veuves, il y a les orphelins, j'ai dit, ce sont ces souffrances qui ont obligé, en quelque sorte, les participants à cette réunion de choisir entre continuer à augmenter la souffrance, peut-être les deuils, ou tenter de trouver un petit chemin sur lequel on peut construire l'espérance pour les gens qui habitent chez nous.
Jean-Marie Tjibaou, donc, dans Interactualité, c'était le 28 juin 1988, deux jours après les accords. L'année suivante, Jean-Marie Tjibaou était assassiné par un indépendantiste qui n'avait pas accepté qu'il signe ces accords précisément. Puis, 10 ans plus tard, en 98, un nouvel accord est signé sous l'égide de Lionel Jospin, cette fois, les accords de Nouméa, qui prévoyaient de repousser l'autodétermination à une date ultérieure située entre 2014 et 2018. Et nous voilons donc à échéance. Il faut désormais se décider. C'est ce que vont faire les Néo-Calédoniens dimanche prochain. Bonjour. Bonjour Benoît Trépied.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un peu plus de 174 000 électeurs vont être invités à se rendre aux urnes dimanche. Ils devront répondre à cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? D'abord un mot sur l'atmosphère générale. Il y a évidemment ce passé que je viens de te rappeler, cette violence. Est-ce que on est dans un moment où on attend avec beaucoup d'impatience ce référendum, ou est-ce qu'il y a une certaine appréhension, voire une crainte?
Bah, disons que le climat s'est considérablement apaisé depuis les violences des années 80. C'est-à-dire que le premier crédit de ces 30 années d'accord, ça a été de ramener la paix dans le pays d'une part, et puis d'organiser un rééquilibrage général de partage des richesses, de pouvoir politique, etc., économique, en faveur des Kanaks, ce qui a très largement porté ses fruits, même si le pays reste toujours très inégalitaire et avec pas mal de discrimination, mais néanmoins la situation n'a plus rien à voir, on a vraiment peu de choses à voir avec ce qu'elle était il y a 30 ans. Donc avant tout, on arrive aujourd'hui au moment où cette question se pose, à un climat beaucoup plus apaisé, beaucoup plus complexe aussi dans la structure sociale et dans les rapports hiérarchiques, qui fait qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner en réalité.
Alors on va revenir évidemment sur cette question du rééquilibrage économique, territorial, qui est évidemment décisif, mais vous dites que ça n'a plus rien à voir de la situation qui prédominait il y a 30 ans. Peut-être qu'à l'issue justement du scrutin, à l'issue de ce vote de dimanche soir, précisément, on va revenir à cette période d'il y a 30 ans. Si le non l'emporte, et Catherine Dutu nous disait dans les journaux tout à l'heure, les sondages pour l'instant nous disent qu'effectivement 70% des personnes interrogées vont voter non. On va revenir à une situation où il n'y aura plus de perspective pour les indépendantistes. Et d'une certaine manière, on revient 30-35 ans en arrière.
Alors c'est justement le paradoxe de cette situation, puisque finalement se pose aujourd'hui... On va avoir la réponse à une question qui se posait il y a 30 ans. Depuis 30 ans, les choses ayant changé, il est vrai qu'on se demande si la question est encore pertinente à se poser. En tout cas, à peu près tous les acteurs politiques tendent à dire « bon, elle n'arrive pas vraiment au bon moment, finalement ». Que ce soit du côté des loyalistes ou des anciens indépendantistes. Cela étant dit...
Elle arrive pas au bon moment, elle arrive trop tôt?
Ben, c'est-à-dire que...
Trop tard?
Alors, c'est difficile à savoir, mais c'est une question qui clive les gens. Alors que depuis 30 ans, la dynamique politique est celle d'un rapprochement. Donc tout l'enjeu, ça va être de savoir comment gérer cette division qui va surgir du référendum, sans pour autant que tout ce qui a été bâti depuis 30 ans disparaisse. Alors il y a plusieurs dispositifs et garde-fous qui permettent a priori d'éviter un retour aux violences. D'abord, si le non l'emporte, Il y aura un deuxième référendum qui aura lieu dans 2 ans sur la même question avec le même corps électoral. Et si ce deuxième référendum est négatif, il y aura encore un troisième référendum. Ce qui fait qu'il y a d'une part encore un délai d'environ 4 ans pour gérer cet après, ou en tout cas gérer la question. D'autre part, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réponse, l'État va réunir les partenaires politiques et va tâcher de nouer un dialogue pour savoir quelles solutions ensemble ils mettent en œuvre institutionnellement.
Benoît Trépied, vous parliez de division. Aujourd'hui, il y a un camp indépendantiste. Le mouvement se structure assez essentiellement autour du Front de Libération Kanak et Socialiste, mais il y a beaucoup d'autres mouvements, beaucoup de partis politiques. Est-ce qu'on a un front indépendantiste uni aujourd'hui, ou est-ce qu'à l'intérieur, on a quand même des divisions?
Alors, le camp indépendantiste comme le camp loyaliste sont extrêmement morcelés en interne. C'est-à-dire qu'ils parviennent en général à se réunir au moment des échéances électorales, là pour le référendum ou lorsqu'il y a des élections provinciales. Mais sinon, le reste de la vie politique quotidienne est marqué par de terribles dissensions, des alliances entre certains partis indépendantistes et certains partis loyalistes. Donc, on ne sait pas du tout, ça, là encore, ce que ça va donner. En particulier, au sein du mouvement indépendantiste, vous l'avez dit, le FNKS appelle à voter oui, évidemment, parce que le FNKS a été porteur de ces accords, mais il y a d'autres partis kanak indépendantistes à l'extérieur du FNKS, comme le parti travailliste, qui eux appellent à ne pas aller voter. Et puis du côté loyaliste...
Est-ce qu'il y a des kanaks qui voteront contre l'indépendance?
Alors il y a toujours eu historiquement une minorité de 15 à 20% de l'électorat kanak qui est anti-indépendantiste. Après, ce qui est assez difficile...
Pour quelle raison?
Alors c'est pour des raisons à la fois historiques et sociales, locales particulières, hein, dans le rapport aux politiques. Et il y a aussi cette idée que la France assure, et la citoyenneté française est la meilleure garantie de protection des Kanaks contre les blancs locaux. C'est une des qu'on appelle les caldoches. C'est une des façons de penser la décolonisation, sachant que le FNKS pense la décolonisation non pas par la citoyenneté, mais au contraire par l'indépendance. Mais dans le camp loyaliste également, il y a beaucoup de dissensions. En dehors des périodes électorales, ils se battent comme chien et chat de façon assez violente. Et même là, au niveau du référendum, il y a certaines mouvances comme les Républicains. Qui veulent une victoire écrasante, en disant on va pouvoir purger la question de l'indépendance, comme disait Frogier, l'un des leaders, alors que de l'autre côté, par exemple, le mouvement Calédonie Ensemble tend à insister sur le fait qu'il faut voter non, mais sans jamais perdre de vue nos partenaires indépendantistes, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est condamné à vivre ensemble, donc il faut qu'on trouve une issue, un compromis qui soit acceptable pour tout le monde.
Vous dites on est condamné à vivre ensemble, mais est-ce que réellement on vit ensemble? Est-ce qu'on est dans une situation où effectivement les communautés kanak et caldoche, donc d'origine européenne, se mélangent, ou est-ce qu'on est dans une situation en réalité de coexistence?
Alors,
de cohabitation.
Oui, ça dépend les lieux où on observe cette question et les générations et les moments sociaux, en fait. De fait, les gens peuvent être ensemble à l'école, vivent dans des quartiers séparés. Il y a quand même globalement ce qu'on repère dans les études sociologiques, anthropologiques menées depuis une vingtaine d'années. Il y a une montée globale des mixités, qu'il s'agisse des mixités matrimoniales, conjugales, résidentielles. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% de la population kanak qui habite dans l'agglomération de Nouméa, alors que auparavant ils étaient réduits à la portion congrue. Donc il y a une vie kanak urbaine en lien avec d'autres communautés. Néanmoins, il y a aussi des inégalités, des discriminations qui perdurent, mais encore une fois, quand on met ça dans une perspective historique un petit peu longue, la situation s'est considérablement améliorée.
Je rappelle, c'est important d'avoir quelques éléments démographiques. Les kanaks, c'est à peu près 40% de la population totale aujourd'hui. Dans les accords de Nouméa, il y avait, et c'était la première fois, une reconnaissance du fait colonial. Le préambule du texte soulignait notamment, je cite, que le moment était venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Comment jugez-vous le travail qui a été fait ou qui reste à faire sur le passé colonial de l'archipel? Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'essentiel du problème?
C'est une partie importante de la question, mais sur laquelle, pour le coup, la Calédonie a beaucoup travaillé, et les Calédoniens, toutes ethnies confondues, depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, parce qu'en réalité, le mouvement indépendantiste kanak dans les années 80, 70-80, a émergé en en affirmant l'importance et l'aspect central de l'identité kanak, de la culture kanak, et disant on peut plus faire comme si les kanaks n'existaient pas. Suite à ce mouvement affirmatif identitaire, à partir des années 90, les autres communautés se sont à leur tour penchées sur leur histoire pour comprendre le sens de leur présence et se faisant construire la légitimité de leur participation à cette collectivité en devenir. Mmh. Et donc, à la faveur de ces programmes, donc il y a eu tout un travail sur la mémoire caldoche, la mémoire wallisienne, la mémoire japonaise, vietnamienne, le métissage, etc. À la faveur de tout ce travail-là, eh ben, il y a eu des processus de réconciliation, il y a même eu des cérémonies de réconciliation entre diverses communautés. Le Centre culturel Chibaou et l'Agence de développement de la culture kanak accueillent à bras ouverts toutes ces manifestations culturelles et ce travail de mémoire qui est en cours. Alors là, pour le coup, la Calédonie est assez novatrice et pionnière sur cet aspect-là de la question.
Ouais, c'est presque même un modèle. Hein.
Tout à fait.
La question économique territoriale, l'une des grandes revendications des Kanaks, c'est de retrouver la jouissance des terres qui leur avaient été confisquées. Depuis plusieurs années, il y a tout un travail qui a été engagé pour leur redonner précisément accès à ces terres. Il y a une grande réforme agraire qui a été lancée il y a longtemps, maintenant à la fin des années 70. Et puis, on a mis aussi en place, avec les accords de 88, un mécanisme par lequel on a pris des terres au Caldoche, donc d'origine européenne, qu'on a réattribué à des familles kanak par le truchement d'une agence de développement rural et d'aménagement foncier. Quel bilan est-ce qu'on peut faire précisément de cette politique de redistribution des terres et est-ce qu'elle a permis ce rééquilibrage territorial, économique, revendiqué par les kanaks?
Alors, la revendication foncière, elle a effectivement, ça fait à peu près 40 ans qu'elle est en place et elle a abouti à, je crois, plus de 200 000 hectares rétrocédés, ce qui à l'échelle de la Calédonie est une proportion quand même très importante des terres. Donc effectivement, elle a porté ses fruits. Mais cette revendication foncière du côté kanak, elle était loin de se réduire à une question économique. C'est-à-dire qu'avant tout, il y avait une question identitaire et de réappropriation des terres qui avaient été volées sous la colonisation. Et d'ailleurs, il y avait tout un débat, même dans les années 80, sur le fait que l'État disait « Ok, on va vous rendre ces terres, mais à condition que vous fassiez des projets de développement économique. » Les Kanaks disaient « C'est pas la question. La question ne se réduit pas à l'économie sur ces terres. C'est aussi retrouver les terres de nos ancêtres, se réinscrire dans des territoires qui sont au fondement de notre identité. » Donc, il y a eu un certain nombre de projets de développement économique. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et puis, en particulier, comme vous le savez, depuis les années 90, les Kanaks se sont très largement réinvestis au niveau de la stratégie économique dans le secteur minier et métallurgique du nickel. C'est le cœur du projet. Et autour de ça, il y a un projet notamment de développement urbain d'une ville, disons, contrôlée par les Kanaks, qui est connue en province nord. Au sein de ce développement urbain, il y a tout un programme très ambitieux de développement sur ces terres coutumières.
Est-ce que vous pouvez justement nous décrire un peu ce nationalisme minier ? Parce qu'il s'agit véritablement de ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est une terre où il y a énormément de nickel. Je crois qu'un quart des ressources mondiales se situe en Nouvelle-Calédonie. Et quand on sait que le nickel, on en a besoin pour faire des batteries, on voit assez bien combien c'est évidemment une économie d'avenir. Et en même temps, sur le plan de l'économie, on voit bien qu'il y a de grosses difficultés. Il y a d'abord de très grosses inégalités entre les territoires. Il y a des taux de chômage très importants, 20%, quasiment le double quand on regarde les jeunes en particulier. Comment se fait-il que l'économie de façon générale, le secteur minier en particulier, sur lequel le nationalisme kanak a tant misé, comment se fait-il que tout ça ne permet pas aujourd'hui d'avoir une économie solide ?
Bah, le constat est un peu est certainement plus nuancé parce que d'une part l'intérêt mais les risques de l'industrie du nickel, c'est évidemment les flux financiers.
Enfin, alors, une économie qui profite à tout le monde, pardon.
Voilà. Alors, la question de, donc, il y a deux questions qu'il faut évoquer. D'une part, ce choix du FNKS à partir des années 90. De se lancer dans le secteur minier et métallurgique avait pour corollaire l'idée que la Calédonie étant assise sur cette mine d'or entre guillemets mais qui est de nickel en réalité, si on contrôlait l'outil de production et si on faisait des usines locales contrôlées par les Kanaks avec la valeur ajoutée qui restait dans le pays, il y avait moyen de financer l'indépendance. Ça, c'est le grand projet économique des Kanaks et qui différencie fondamentalement la situation de la Calédonie par rapport à tout le reste de l'outre-mer.
Ça a marché?
les Kanaks ont réussi à construire cette une des plus grandes usines métallurgiques du monde, l'usine de Cognambo-Nickel de Vavuto qui se trouve en province nord, dont le capital est détenu à 51% par la société d'investissement de la province nord, c'est-à-dire contrôlée par les Kanaks avec une multinationale. Maintenant, elle est construite, elle fonctionne, et autour de ce projet, il y a eu toute une politique d'emploi des gens de la région, des Kanaks, de redistribution des dividendes aux clans et propriétaires concernés, etc. Donc c'est un projet ambitieux. Le secteur industriel minier international étant ce qu'il est, il y a des aléas. Et donc en ce moment, c'est une période de vaches maigres, après qu'il y a une période de vaches, j'allais dire de vaches folles, mais de vaches grasses, quoi. Donc ça, c'est un projet qui suit son cours. Et au final, la Calédonie dans son ensemble contrôle désormais 5 usines de nickel pour un petit pays de 300 000 habitants. Il y en a 3 en Calédonie, une en Chine, une en Corée. Ce sont en gros les Calédoniens qui tiennent les rênes de ces usines, ce qui est, pour un pays de 300 000 habitants, tout à fait frappant. Et il y a donc un moyen économique. Après, la question du partage des inégalités est liée également, alors d'une part aux règles du capitalisme financier international qui est compliqué à gérer, et d'autre part aux tensions politiques à l'intérieur du territoire, puisque au sein notamment du monde loyaliste, il y a toute une frange de la droite dure qui est pas du tout dans une logique de redistribution de politique sociale, et donc il y a d'ailleurs des tensions très importantes entre les principaux partis non indépendantistes sur la stratégie économique et disons l'aspect plus ou moins libéral ou social des politiques.
Benoît Trépied, selon les derniers chiffres de l'Institut statistique et des études économiques du territoire, donc de la Nouvelle-Calédonie, les transferts de l'État vers la Nouvelle-Calédonie représentent aujourd'hui 16% du PIB calédonien. Alors, c'est à la fois beaucoup, et en même temps, quand on regarde justement la part de ce transfert dans l'ensemble de l'économie, on voit que c'est en baisse. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut survivre économiquement en faisant le choix de l'indépendance ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que les indépendantistes disent que
vous savez
oui,
pas. Personne ne le sait en fait.
Non, voilà, je pense que personne ne le sait. En revanche, ce qu'il faut bien pas perdre de vue, c'est que ce que le FNKS en particulier demande désormais dans le cadre de ce processus d'indépendance, c'est un statut d'indépendance association d'État associé d'indépendance en partenariat avec la France, qui consiste pour un État à recouvrer entièrement ses compétences régaliennes, mais cet État peut ensuite décider librement de confier certaines de ses compétences régaliennes à un autre État, considérant par exemple qu'il n'est pas intéressant ou économiquement viable pour l'État calédonien indépendant de construire une armée, et donc décidant de faire un partenariat avec l'armée française. Sur la monnaie, c'est la même question, sur la police, c'est la même question, et il y a déjà des modèles de ce type dans le Pacifique. Les îles Cook, par exemple, sont un État reconnu à l'ONU, souverain, mais dont la monnaie est le dollar néo-zélandais, et qui a des accords de partenariat de défense avec la Nouvelle-Zélande. Donc il y a aussi tout un volet de négociations possibles sur qui gère les compétences régaliennes, comment on les gère, avec quel financement, etc. Donc la porte est encore ouverte, il y a plusieurs possibilités.
On parlera justement de cette question des partenariats, de les questions géostratégiques, parce que effectivement il y a aussi une question plus large qui se pose, qui est celle de la place de la France dans cet ensemble-là, et évidemment l'indépendance possible de la Nouvelle-Calédonie pourra avoir des conséquences, même si on l'entend, pour le moment, ce qui se profile là, c'est plutôt un non, et donc la Nouvelle-Calédonie resterait dans le giron de la République française. Benoît Trépied, un tout dernier mot.
Oui, non, tout l'enjeu sur le non, c'est de savoir en particulier quel va être le taux de participation. Et ça, personne n'a vraiment une vue spécifique sur ça, puisque la liste référendaire est très spécifique.
Vous restez avec nous, Benoît Trépied. On vous retrouve en deuxième partie. Et Fabrice Argounès, qui est géographe, nous rejoindra. On élargira un peu le spectre, le champ, pour voir justement ce que l'on peut attendre de l'avenir de la France dans cette région pacifique.